Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Pour notre étude biblique de ce matin, nous sommes de nouveau dans le livre de 1 Corinthiens, où nous sommes depuis de très nombreux mois. Nous nous retrouvons encore à discuter des perfections de l'amour dans le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Et la réponse que j'ai reçue de beaucoup d'entre vous a été très, très gratifiante. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont été vraiment bénis. Dieu a touché votre vie. Et il y a eu beaucoup de réponses à cette compréhension de l'amour que le Saint-Esprit a partagé avec nous ici. Alors, je suis enthousiaste à l'idée de partager davantage avec vous ce matin. Maintenant, alors que nous examinons à nouveau notre section à étudier, chapitre 13, versets 4 à 7, les perfections de l'amour, je veux la présenter et l'aborder ce matin sous un angle négatif, si c'est possible. Le péché a des effets. Je doute que l'un d'entre nous se donne à la peine de dire que ce n'est pas le cas. Nous savons que c'est le cas. Nous savons que cela a des effets en vertu de notre compréhension de la Bible et de notre compréhension de notre propre situation. Nous reconnaissons que lorsque le péché est dans notre vie, certaines choses se produisent à la suite de cela. Nous reconnaissons que la Bible parle des conséquences du péché. Je suppose que nous pourrions diviser ces conséquences en deux catégories les plus évidentes. Tout d'abord, le péché a un effet considérable sur l'âme d'un homme ou d'une femme. Cela affecte votre relation avec Dieu. Vraiment, lorsque vous péchez ou vivez dans un état de péché non confessé, vous perdez la bénédiction. Vous sortez d'une situation où vous êtes béni par Dieu et vous vous mettez dans une situation de perte de joie, afin qu'il se produise une maladie de l'âme. Il y a un languissement de l'âme qui se produit lorsqu'un croyant est pécheur. Mais deuxièmement, le péché a également un effet assez dramatique sur le corps physique. Le péché aura des résultats en termes de douleur et de maladie. David en est une bonne illustration. Dans 2 Samuel, chapitre 12, nous avons le récit d'un péché assez terrible. David a violé Bathsheba. Puis, en tant qu'acte secondaire, il a fait en sorte que son mari soit en mesure de perdre la vie, ce qui équivalait en réalité à un meurtre. Il était donc impliqué non seulement dans l'immoralité, mais aussi dans le meurtre. À la suite de cela, voici un enfant de Dieu qui était en train de se divertir et qui se trouvait dans une situation de péché. Il a non seulement souffert de la maladie de l'âme, du fléau terrible de son âme, du sentiment d'aliénation de Dieu et de l'angoisse de ce péché, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu la bénédiction, mais il a également eu un impact dramatique sur son propre corps physique. Et si nous cherchions juste un instant au psaume 32, nous verrions comment David réagissait à la maladie physique résultant de son péché. Dans le psaume 32, versets 1 et suivant, il parle de son péché et de combien ce serait merveilleux de pouvoir sortir de ce péché. Les effets de son péché qu'il mentionne dans les versets 3 et 4 se situent dans la zone physique. « Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je n'ai pas reconnu mon péché, que je ne l'ai pas confessé, que je ne l'ai pas avoué devant Dieu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. En fait, il souffrait une douleur physique, des conséquences physiques, des douleurs osseuses, la douleur profonde physique. Ensuite, au verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. L'essence de la vie est desséchée, des choses sont arrivées à son sang. Les sécrétions des différentes glandes ne fonctionnaient plus. Les fluides qui lubrifient les muscles ne fonctionnaient peut-être plus correctement, de sorte que certaines tensions se créaient. C'est la signification hébraïque de ce concept d'humidité. Le péché de David a donc eu un impact physique extrêmement important sur son corps. Cela nous amène à cette conclusion évidente. Pour un chrétien ou un enfant de Dieu, le péché constitue un traumatisme émotionnel. Aucune question à ce sujet. Cela crée une anxiété émotionnelle. Cela crée une aliénation émotionnelle de l'unique ancre du chrétien. À la suite de ce traumatisme émotionnel, une maladie débilitante, voire mortelle, peut en résulter. Le centre émotionnel du cerveau est une tige à partir de laquelle les fibres nerveuses, se dirigent vers tous les organes du corps, et en raison d'une connexion aussi complexe au cerveau, les troubles dans le centre émotionnel du cerveau peuvent créer des impulsions pouvant causer un nombre quelconque de problèmes physiologiques. En fait, les médecins nous disent que ces problèmes sont généralement créés de trois manières, physiquement. Premièrement, le centre émotionnel modifie la quantité de sang qui coule vers un organe donné, ce qui peut devenir affaiblissant pour cet organe. Deuxièmement, le traumatisme émotionnel peut avoir un effet sur la sécrétion de certaines glandes, ce qui peut également affecter la fonction corporelle. Troisièmement, ça peut toucher la tension de certains muscles. Ce que nous voyons dans le péché a donc un double effet, c'est spirituel et c'est physique. Le péché peut affecter le corps, cela vous rend malade. Dans Proverbes 15:17, il est dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, c'est une concession extraordinaire. Je veux dire, en tant que garçon, je n'ai jamais pensé qu'il était bon de manger des légumes. Je ne suis toujours pas convaincu. Mais de toute façon, David, ou c'est peut-être Salomon qui dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, s'il y a de la haine. » En d'autres termes, un bœuf de l'étable est comme un veau gras. Vous prenez un bœuf, vous le mettez dans l'étable et vous l'engraissez pour le tuer. Vous aurez un filet mignon de bœuf, en anglais moderne. Mieux vaut avoir du chou-fleur avec de l'amour que du filet mignon avec de la haine. En d'autres termes, la maladie qui peut résulter de l'anxiété cardiaque engendrée par le péché qui vous rend malade, vous empêchant aussi de profiter du meilleur des repas. Encore une fois, réitérant l'élément physique dans le péché. Ainsi, lorsque Paul écrit aux Corinthiens pour leur dire d'aimer, et leur dire que l'amour est ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas seulement pour la guérison de l'âme, mais cela a affecté aussi le corps. Laissez-moi vous montrer pourquoi je dis cela. Regardez le chapitre 11 de 1 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 29, à propos de la manière dont ils participaient à la table du Seigneur, d'une manière qui était vraiment pécheresse. Paul dit dans le chapitre 11, verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, d'une manière indigne, mange et boit un jugement, ou châtiment, contre lui-même. En d'autres termes, si vous mangez de cette façon, vous allez être châtié. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ils avaient eu des maladies graves, et même la mort. Maintenant, ce n'est pas tant, je ne pense pas, l'idée que lorsque quelqu'un a péché, Dieu est descendu, et l'a tué surnaturellement, l'a miraculeusement tué, ou lui a donné une maladie surnaturelle. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'au sein de l'assemblée corinthienne, de nombreuses personnes vivaient dans le péché, et le péché a des ramifications physiques. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul, au chapitre 13, leur dit « Aimez-vous », il ne dit pas simplement « Ceci est un problème d'âme », mais il dit « Ceci est également un problème de corps, pour l'intégralité de votre assemblée, pour la plénitude de votre propre corps, pour le bien-être de toutes ces choses, vous devez aimer ». Maintenant, rappelez-vous, et c'est le point essentiel que je veux utiliser pour lier ce que je viens de dire à ce que je vais dire. Rappelez-vous, tout péché est une violation de l'amour. Tout péché. Alors il dit simplement, vous péchez, vous êtes malade spirituellement, vous êtes donc malade physiquement. Et voici la réponse. Pratiquez l'amour, et toutes ces choses disparaîtront. Vous dites, John, que voulez-vous dire par le fait que l'amour éliminera tout péché ? Regardez Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Ils essayaient toujours de se prouver mieux que les sadducéens. Ils ont supposé que si les sadducéens avaient été écrasés par Jésus, ils viendraient pour écraser Jésus, et ils gagneraient donc un peu de prestige dans leur société. Ils sont donc venus et ont convaincu un avocat à poser une question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Le plus important ? Bien sûr, ils avaient l'idée que vous deviez garder la loi pour être sauvés. Mais ils étaient assez malins pour se rendre compte que, de cette façon, personne ne serait sauvé, parce que personne ne peut garder la loi. Alors ils ont décidé que, du moins certains d'entre eux, que si vous pouviez trouver la meilleure loi et la garder, vous iriez bien au paradis. Alors ils disaient simplement, « Quelle est cette loi ? » Jésus a dit, « La voici, tu dois. » Quel est le mot suivant ? Aimer. Nous abordons ici le concept de l'amour, en relation avec cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le premier, le plus grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et sur ces deux commandements repose toute la loi et les prophètes. Maintenant écoutez, si vous aimez le Seigneur votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, et de toute votre force, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pécherez jamais, car vous ne ferez rien pour violenter Dieu. Vous ne ferez rien pour violenter votre prochain. Cela règle tout. L'amour accomplit tout cela. Dans Romains 13, un mot familier au verset 8, il dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et s'il y a un autre commandement, vous pouvez le comprendre brièvement dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas le mal à son prochain. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous n'avez pas besoin d'un commandement qui dit « Tu ne tueras pas ton prochain si tu aimes ton prochain ». Vous n'avez pas besoin d'un commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas si vous aimez la personne qui possède ce que vous n'avez pas ». Vous voyez donc que ces deux passages disent ceci. Pour simplifier la vie, aimez Dieu, aimez votre prochain, et vous n'aurez à vous soucier de rien d'autre. Les Corinthiens étaient également sans amour. Comme David, ils avaient choisi de se violenter les uns les autres. Ils étaient sans amour. Leur absence d'amour était en réalité l'ingrédient commun de chaque péché. Par exemple, nous avons commencé dans le livre de 1 Corinthiens, et nous avons lu au sujet de leur division et de leur discorde. La raison pour laquelle ils se battaient les uns avec les autres venait de leur manque d'amour. Ils étaient divisés en petits groupes, selon leur philosophie. Ils avaient formé de petits groupes spirituels dirigés par différents enseignants humains. Il y avait des frictions, de l'inquiétude, des querelles et des divisions. Une vie charnelle, parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Leur absence d'amour est également visible dans le fait qu'ils vivaient dans l'immoralité et se violaient sexuellement. Leur manque d'amour est perçu comme une sorte d'orgueil laid qui est traité par Paul au chapitre 4, lorsqu'il dit que les Corinthiens n'agissaient pas comme des serviteurs. Ils pensaient plutôt qu'ils étaient quelqu'un. Ils étaient plutôt amoureux d'eux-mêmes que de Dieu et des autres. Leur manque d'amour se voyait dans leur attitude. Ils se poursuivaient en justice constamment. La raison pour laquelle ils faisaient cela était parce qu'ils étaient sans amour. La raison pour laquelle ils avaient des problèmes à la maison, au chapitre 7, c'est à cause du manque d'amour. La raison pour laquelle ils piétinaient les chrétiens les plus faibles, des chapitres 8 à 10, était simplement par manque d'amour. La raison pour laquelle ils violaient la table du Seigneur, c'était qu'ils étaient indifférents à l'amour, indifférents à la communion et à la camaraderie les uns des autres. Ils étaient indifférents à Dieu et à son Fils. La raison pour laquelle ils se comportaient comme des porcs lors des fêtes d'amour, c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas assez pour partager de la nourriture avec ceux qui n'avaient rien. Vous voyez, le manque d'amour était responsable pour chaque péché qu'ils commettaient. Donc quand Paul y arrive, il dit vraiment que l'amour est la réponse à tout. Cela vous apportera la plénitude spirituelle et vous apportera l'épanouissement physique. Je peux vous promettre que c'est une chose excitante à dire, mais si votre vie est remplie d'amour, vous serez en bonne santé spirituellement. Et il est probable, à moins que Dieu n'ait un but très spécifique pour vous, que vous serez en bonne santé physiquement. C'est pourquoi la Bible nous appelle à aimer encore et encore. Il n'y a pas de christianisme sans amour, pas d'église sans amour, pas de ministère sans amour. 1 Timothée 1:5 est un verset dont nous devons nous souvenir. Il dit ceci. Le but du commandement, en d'autres termes, la raison, l'objectif, la somme de tout, le but de tout, la fin du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. 1 Timothée 1:5. Le but du commandement est une charité venant d'un cœur pur. Dieu essaie de nous apprendre à aimer. Dans 1 Corinthiens 16:14, nous verrons ce verset plus tard au fur et à mesure de notre étude. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Une théologie adéquate ne remplace pas l'amour. L'activisme et le service ne remplacent pas l'amour. L'affection sélective, c'est-à-dire l'attirance pour certaines personnes, ne remplace pas l'amour généralisé. L'immaturité, l'ignorance, n'est pas un substitut, et ce n'est pas une excuse pour l'amour. 1 Thessaloniciens 4:9 dit qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre l'amour, parce que Dieu vous a appris à aimer. Romains 5:5 dit qu'il a mis son amour dans votre cœur. Dieu veut que les chrétiens soient heureux. Dieu veut que les chrétiens soient en bonne santé dans leur âme. Dieu veut que vous sachiez ce que c'est que d'être béni, et que vous ne sentiez pas son châtiment, même dans le domaine des maladies physiques causées par le traumatisme du péché volontaire. La vraie clé de tout cela, c'est d'apprendre à aimer. C'est la réalité indispensable pour le chrétien. Dieu est amour, et si Dieu se voit en nous, c'est lorsque nous sommes amour. Maintenant, il est si important que nous aimions, que le Nouveau Testament continue à le marteler. Par exemple, Colossiens 3:14 dit « Revêtez-vous de l'amour ». 1 Corinthiens 14:1 dit « Recherchez l'amour ». Philippiens 1:9 dit « Abondez dans l'amour ». Hébreux 13:1 dit « Persévérez dans l'amour ». 1 Thessaloniciens 3:12 dit « Augmentez votre amour ». 1 Pierre 4:8 dit « Soyez fervents avec amour ». Philippiens 2:2 dit « Soyez cohérents dans l'amour ». Hébreux 10:24 dit « Provoquez-vous les uns les autres à aimer ». 2 Corinthiens 8:8 dit « Soyez sincères dans l'amour ». Et ainsi de suite, cela a toujours été le summum de la vie. C'est le summum de la plénitude pour le chrétien. Le chrétien en bonne santé, heureux, positif, rayonnant et utile, est celui qui aime. Vous dites « Oh, c'est génial, John, mais comment cela marche? Comment l'amour fonctionne-t-il ? » Regardez encore ces versets, 1 Corinthiens 13, 4, 7. Et vous verrez, j'ai essayé de dire depuis toujours que l'amour n'était pas une émotion, et j'espère que vous saisissez cela. Mais l'amour, c'est de l'action. Ici, il nous a donné l'amour en action, exprimant le comportement de l'amour. Nous avons étudié les 11 premiers. Nous allons nous intéresser uniquement aux 4 derniers ce matin, et c'est la perfection de l'amour. Dans les 3 premiers versets, nous avons discuté de l'importance de l'amour. Les versets 4 à 7, les perfections de l'amour. Les versets 8 à 12, la permanence de l'amour. Verset 13, la prééminence de l'amour. Nous allons regarder ces 2 derniers une autre fois. Maintenant, rappelez-vous des 11 premiers qui décrivent l'amour. Si nous devons aimer, nous devons savoir ce que signifie aimer. Permettez-moi de vous les présenter très brièvement. Le verset 4. L'amour est patient. Nous avons découvert que cela signifiait que l'amour était patient avec les autres. L'amour est bienveillant. Cela signifie qu'il est utile aux autres et que son plus grand privilège est de servir. Peut-être que ces 2 sont le titre et les 13 autres sont en quelque sorte des sous-titres pour l'amour. Troisièmement, l'amour n'envie point. Il n'est jamais jaloux. Il ne désire rien d'autre que donner. L'amour ne se vante point, c'est-à-dire qu'il n'est pas orgueilleux. Il ne fait pas en sorte que les autres se sentent inférieurs. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Autrement dit, il n'a pas d'opinion exagérée sur lui-même. Sixièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il n'agit jamais de manière égoïste. Il considère ce qui est essentiel au bonheur des autres. L'amour ne cherche point son intérêt. C'est vraiment la clé de tout. L'amour est totalement désintéressé. C'est le contraire même de l'égocentrisme. Huitièmement, l'amour ne s'irrite point. Cela signifie que l'amour ne se fâche pas, n'est pas irrité ni en colère. 9. L'amour ne soupçonne point le mal. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un terme comptable. L'amour ne tient pas de livre sur les infractions qui ont été commises. Il pardonne et oublie. Il ne crée jamais un livre de souvenirs d'actes répréhensibles. 10. L'amour ne se réjouit pas. Verset 6 maintenant. De l'injustice. L'amour ne prend aucun plaisir à entendre ou à répéter l'injustice. Il n'est jamais heureux du péché, que ce soit le sien ou celui de qui que ce soit, car le péché blesse Dieu, et blesse certainement celui qui le commet, et les autres qui subissent les conséquences. 11. La fin du verset 6. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit lorsque la vérité est vécue et enseignée. Très bien, voilà les 11 dont nous avons parlé. Maintenant vient le crescendo verset 7. Regardez cela. Ce sont les 4 derniers éléments de l'amour, et c'est un peu comme si Paul s'envole vraiment au moment où il les donne, et il rassemble aussi un peu les autres. Alors il culmine dans un crescendo en définissant l'amour. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Puis il termine en disant « L'amour ne périt jamais ». Voyons maintenant ces 4 au verset 7. C'est une hyperbole, c'est-à-dire qu'ils sont des déclarations d'exagération. L'amour supporte tout, 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 4 fois. Nous devons comprendre que quand il dit toute chose, il ne veut pas dire toute chose au sens universel. L'amour doit certainement faire de la discrimination. Nous devons éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Nous ne croyons pas le diable, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas tout dans le sens général, total, universel. Ce que cela signifie, c'est tout dans les limites bibliques appropriées, de la discrimination chrétienne appropriée, de la sensibilité chrétienne appropriée, toutes les choses qui entrent dans le cadre divin. Maintenant, ces quatre sont ascendants, et nous allons de l'un à l'autre, et ils sont probablement plus liés que les 11 autres. Ils vont vraiment ensemble. Maintenant, soyons attentifs. Regardons le premier. Numéro 12 des 15. L'amour excuse tout. C'est un mot formidable, et je veux que vous en voyiez la profondeur. C'est une vérité glorieuse. Le mot supporter, bien qu'il soit utilisé dans diverses nuances dans le Nouveau Testament, signifie principalement couvrir de silence. Ou, si vous voulez un mot, supprimer. C'est le sens fondamental. Cela ne signifie pas que l'amour supporte n'importe quoi et que l'amour peut être bousculé parce qu'il n'a aucune dignité. Mais ce que cela signifie, c'est que l'amour, fondé sur le respect et l'intelligence de la valeur réelle d'une autre personne, l'amour fera tout ce qui est en son pouvoir pour dissimuler et réprimer le péché de cette personne. Le véritable amour hésite à traîner un scandale devant quiconque. Quand il dit qu'il excuse tout, ce n'est pas dans le sens de « Oh, je vais supporter cela un peu plus longtemps » ou « Je vais supporter cette épreuve ». Cela signifie qu'il est disposé à couvrir la laideur de la vie de quelqu'un d'autre. Vous savez, vous pouvez illustrer le fait qu'il s'agit d'un comportement humain normal en regardant vous-même et vos propres enfants. Il est normal que la dépravation veuille découvrir le mal de tout le monde. Cela ne fait aucun doute. Allez au kiosque à journaux et consultez les derniers magazines, de vraies confessions, les secrets de Monsieur un tel, le mariage secret d'un tel et d'un tel, et tous les livres. Je vous le dis, les librairies sont bourrées d'exposés. Vous voyez, la dépravation cherche toujours à trouver le squelette dans le placard de quelqu'un d'autre, parce que cela donne toujours une impression d'autosatisfaction. Vos enfants en sont une bonne illustration, les miens aussi, juste pour que vous réalisiez que je suis sur la même longueur d'onde que vous. Ils viennent au monde dépravés, et l'une des premières manifestations de leur dépravation est l'empressement avec lequel ils veulent dénoncer leurs frères et sœurs. C'est une chose que vous devez discipliner. Les nôtres venaient pour dire « Savez-vous ce que Matt a fait ?» Et je dirais « Je ne sais pas ce que Matt a fait, et je ne suis pas intéressé. » C'est une façon de régler le problème. Puis, quand ils parlent, je découvre ce que Matt a fait. L'un d'eux va descendre les escaliers. Un tel saute sur le lit. Vous savez, c'est typique. Pourquoi? Parce que la dépravation essaie toujours de découvrir quelqu'un d'autre pour gagner un sentiment de respect de soi, de justice, et d'avoir une belle apparence à vos yeux. Vous savez, c'est un peu triste, mais certaines personnes n'en sortent jamais. Certaines personnes passent toute leur vie à tâtonner. Vous savez, je questionne souvent les personnes mariées, et tout ce qu'elles font, c'est de parler des erreurs, des fautes et des péchés de leur partenaire. Je me demande s'ils connaissent le sens de l'amour, parce que l'amour jette une couverture sur les fautes de quelqu'un d'autre. C'est ce que le mot signifie. Les Corinthiens n'en connaissaient pas la signification. Ils exposaient n'importe qui. Chapitre 6. Si quelqu'un offensait l'un d'entre eux, il les traînait devant un tribunal et les poursuivait en justice devant un juge païen. Mais l'amour jette un manteau bienveillant sur les fautes, les faiblesses et les péchés des autres. 1 Pierre 4, 8 a dit. C'est beau. Il a dit « L'amour couvre une quoi ?» Multitude de péchés. L'amour est une grande couverture qui couvre les fautes des personnes sans les exposer. Proverbe 10:12 dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre tous les péchés. » Avez-vous déjà remarqué avec quelle facilité vous écartez les fautes de ceux que vous aimez? Pensez à la personne que vous aimez le plus, et elle a fait quelque chose de mal. Il y a tant de bonnes choses en elle. Je veux dire que tout le monde fait des erreurs. Maintenant, pensez à la personne que vous n'aimez pas. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Ce serait un péché. Ou imaginez que vous n'aimez pas quelqu'un, c'est mieux. Il fait quelque chose de mal. Et vous aimez cela, vous voyez. Parce que vous le souhaitez vraiment. Mais l'amour ne tient pas compte des péchés de celui qui l'aime. Et bondit sur ceux de celui qu'il n'aime pas. Vous voyez. L'amour avertira, oui. L'amour exhortera. L'amour réprimandera. Et l'amour disciplinera. Mais l'amour couvrira. N'exposera pas. Une belle caractéristique de l'amour. Je vous donne une bonne illustration. La meilleure illustration à laquelle je puisse penser. La croix de Jésus-Christ. L'amour a une qualité rédemptrice. Vous savez, Dieu nous a aimés. Dieu ne s'est pas assis au ciel avec la Trinité pour dire Vous savez, ces êtres humains sont dégoûtants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les anges, à leur sujet? Oh oui, en particulier MacArthur. Il est bien méchant. Ils n'ont pas eu une discussion éternelle à notre sujet. Nous ne sommes pas le sujet de commérages célestes. N'est-ce pas agréable à savoir? Il est la couverture de notre péché. Vous voyez, Dieu n'a pas envie d'exposer nos fautes. En fin de compte, il les couvre, plutôt que de s'asseoir dans le ressentiment et de bavarder avec la Trinité et les anges au sujet des péchés des hommes. Dieu s'est donné sur la croix, a jeté une couverture sur le péché de l'homme et a porté son péché dans son propre corps. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'amour. L'amour jette un voile sur le péché, parce qu'il contient un élément rédempteur. L'amour suit toujours la rédemption. L'amour veut racheter. L'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour achète. Écoutez cela. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53. C'est l'amour. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. En réalité, l'amour ira au-delà d'une couverture. L'amour est si empathique qu'il ressentira la douleur. L'amour va réellement supporter l'agonie. L'amour va ressentir la douleur lorsqu'un frère ou une sœur pêche. Et si j'aime cette personne, j'ai mal. Je ne veux pas exposer son péché. Je suis prêt à supporter la douleur. Puis l'amour rachètera et pardonnera. Le caractère rédempteur de l'amour est prêt à prendre et à jeter une couverture sur le péché, à ressentir la douleur de ce péché. Et je ferai un troisième pas, être prêt à assumer les conséquences de ce péché. Le véritable amour le fait. Sur la croix, Dieu n'a pas simplement jeté un voile sur le péché. Il n'a pas simplement éprouvé de la sympathie pour cela. Il a fait quoi? Il a porté nos péchés dans son propre corps. Le véritable amour n'est jamais prompt à exploiter, à exposer, à jubiler ou à condamner. Il jette une couverture sur le péché, emporte le fardeau, en prend même la responsabilité, accepte même le châtiment. À l'époque de Cromwell, un soldat avait été condamné à mort par exécution. Il devait mourir à la sonnerie du couvre-feu. Il était fiancé à une belle jeune fille. La fille a plaidé devant le juge. En larmes, elle implora Cromwell d'épargner sa jeune vie, mais en vain. Tous les préparatifs ont été faits pour l'exécution. La ville attendait le signal de la sonnerie du couvre-feu. Le sacristain, qui était vieux et sourd, s'est jeté contre la corde, comme il l'avait fait pendant des années. Il l'a tiré et tiré, puis tiré, et il ne le savait pas. Mais aucun son n'est sorti. La jeune fille avait grimpé au sommet du clocher, tendu la main, attrapé et tenu la langue de l'énorme cloche, au risque de perdre sa vie. Au moment de l'appel, elle fut écrasée contre le côté. Mais la cloche était silencieuse. Enfin, la cloche a cessé de sonner, et elle a réussi à remonter par le bord et est descendue. Elle est descendue blessée et saignée. Cromwell attendait. Tout le monde attendait sur le lieu de l'exécution, et il voulait savoir pourquoi la cloche n'avait pas sonné, et la fille est arrivée et lui a raconté l'histoire, et un poète l'a écrite pour toujours, et voici ce qu'il a dit. À ses pieds, elle a raconté son histoire, lui a montré ses mains meurtries et déchirées, son doux et jeune visage, encore hagard par l'angoisse qu'elle avait portée à toucher son cœur avec une pitié soudaine, a fait briller dans ses yeux une lumière voilée. « Va !» Ton amoureux vit, a déclaré Cromwell. Le couvre-feu ne sonnera pas ce soir. Voici quelqu'un qui était prêt à aller jusqu'au bout, là où l'amour va. Jeter une couverture sur le péché, ressentir de la sympathie pour le péché et prendre la punition pour quelqu'un d'autre. C'est l'amour rédempteur. C'est toujours la qualité de l'amour, que l'amour supprime le péché de quelqu'un d'autre, sympathise avec le péché de quelqu'un d'autre, souffre pour le péché de quelqu'un d'autre, si possible. Dans quelle mesure supportez-vous la douleur pour couvrir le péché de quelqu'un? C'est une bonne question. Couvrons-nous vraiment le mal des autres? L'amour le fait. L'amour excuse tout. Il y a une seconde chose. Allons un peu plus loin. Numéro 13, verset 7. L'amour n'excuse pas seulement toute chose. L'amour quoi? L'amour croit tout. C'est génial. L'amour excuse tout et l'amour croit tout. Au lieu de soupçonner, au lieu de vouloir dénoncer le délinquant, au lieu de dire « Oh, il a probablement exactement ce qu'il mérite. C'est probablement ainsi que cela aurait dû fonctionner. Et il est parti si loin maintenant. Il ne changera probablement jamais. » L'amour croit au meilleur de l'autre. Il voit le mal Il voit la faiblesse. Il jette un voile de silence sur la faiblesse. Il efface le péché. Puis il croit le meilleur. L'amour ne passe pas sa vie à être cynique. L'amour ne passe pas sa vie à douter, à se méfier de tout le monde, soupçonneux à chaque fois que quelqu'un fait une chose erronée. Oh, je savais qu'on en arriverait là. Ils étaient pourris dès le début. L'amour n'est ni cynique ni méfiant. L'amour croit toujours le meilleur. Vous savez, vous voyez cela en particulier, je pense, dans le cœur d'une mère. Parfois, un fils, une fille, s'éloigne du Seigneur. Nous étions dans l'Ohio avec des personnes chères, que nous avons appris à connaître et qui nous ont invités à cette conférence. Ils nous ont parlé d'une fille qui s'était éloignée, qui était une source de grand chagrin. Et ils ont reconnu ses péchés. Ils ont reconnu les fautes. Ils ont reconnu tous les problèmes. Mais ils ont jeté un manteau d'amour sur elle, parce qu'ils se souciaient tellement d'elle. Et ils ont dit, « Elle reviendra. Nous croyons de tout notre cœur qu'elle reviendra au Seigneur. Tu sais pourquoi ils croient cela? Parce qu'ils l'aiment, et que l'amour doit le croire. L'amour doit le croire parce que l'amour se soucie trop pour ne pas y croire. Ce que l'amour veut tellement se transforme en foi, vous voyez. Cette maman et ce papa veulent tellement que cette fille revienne, et ils l'aiment tellement que leur désir devient une conviction. C'est comme cela que l'amour fonctionne, vous voyez. Mais quand quelqu'un se trompe et que vous dites « Ah, ils ont révélé leur vrai caractère », cela prouve que vous ne les aimez pas, parce que l'amour ne se laisse pas aller comme cela. Il y a la femme d'un mari qui, depuis 25 ans, 30 ans, n'est jamais venue à Christ, et elle dit toujours « Il viendra un jour ». Et vous savez, quand elle dit cela, que sait-on? Elle l'aime, et son amour pour lui fait souhaiter qu'il vienne. Son souhait est si fort qu'il se transforme en une conviction. Oui, l'amour voit le mal, l'amour voit la faiblesse, l'amour le réprimande, et l'amour s'en occupe, mais pas pour l'exposer. L'amour jette un voile dessus. Si vous allez vous tromper au sujet du caractère de quelqu'un, rendez service à vous-même, ainsi qu'au Seigneur et à tous les autres. Trompez-vous dans le sens de l'amour. Vous faites une erreur, car vous avez trop confiance en lui. Vous avez cru en lui. L'une des choses que nous avons essayé d'intégrer à notre ministère ici et dans tout notre personnel, les actifs et les anciens, et tous les autres, est basée sur une chose. Nous croyons en vous. Nous croyons que vous êtes totalement dédié au Christ. Nous pensons que vous êtes diligent. Nous pensons que vous êtes le meilleur type de personne. Et, sur cette base, nous vous faisons confiance. Et si quelqu'un n'est pas digne de cette confiance de temps en temps, tout va bien. Nous nous tromperons dans le sens de l'amour, et c'est ainsi que nous pourrons rester en bonne santé et heureux. La plupart du temps, cela rend les personnes responsables et les incite à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les Corinthiens soupçonnaient les autres. Ils étaient cyniques. Ils croyaient en ce qui est mauvais, et ils présumaient que personne ne disait la vérité. Voyez comme les amis de Job. Nous savons quel est ton problème, Job. Tu es diabolique. Tu es mauvais, Job. Regarde les choses en face. C'est la raison pour laquelle tu as tous ces problèmes. Et Job a écouté toute cette palabre aussi longtemps que possible. Il savait dans son cœur qu'il n'était pas ce qu'il disait. Et finalement, il y a une déclaration dans, je pense qu'elle se trouve au chapitre 21, verset 27. Je sais bien quelles sont vos pensées. Quel jugement inique vous portez sur moi. Vous savez, j'en ai assez de vous, les gars. Tout ce que vous faites, c'est de penser du mal de moi. Et qu'est-ce que cela prouve? Il ne l'aimait pas. Parce que s'ils l'avaient aimé, ils auraient dit « Mais c'est un homme bon. Oh, peut-être qu'il a commis des erreurs ici et là, et peut-être qu'il a péché, mais il est bon. Il y a quelque chose de rachetable chez lui. Je ne comprends pas pourquoi, mais ce n'est pas ainsi qu'il pensait. Regardez cet exemple-ci dans Matthieu 9. Remarquez, vous voulez savoir ce que les pharisiens pensaient de Jésus? C'est probablement une indication aussi claire que possible. Dans Matthieu 9, Jésus avait rencontré un homme atteint de paralysie, et avait vu sa foi. Il a dit, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Lui a donné le salut, ainsi qu'une guérison physique. Certains des scribes ont dit en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Voilà qui est intéressant. Jésus guérit un homme et dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Ils ont dit, à voix basse, « Cet homme blasphème. » Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'ils avaient une prédétermination qu'il était mauvais. Vous dites, « Est-ce mal de pardonner les péchés? » Non. Est-ce mal de guérir les malades? Non. Mais ils avaient une prédisposition, et ils pensaient qu'il était mauvais. Alors, quoi qu'ils fassent, ils devaient être mauvais. Ils étaient cyniques et méfiants. J'aime beaucoup le verset suivant. Jésus, connaissant leurs pensées, a dit, « Pourquoi pensez-vous au mal dans votre cœur? Ils ne l'ont même pas dit. Jésus a répondu à leurs pensées. Il a dit, « Pourquoi pensez-vous au mal dans votre cœur ?» C'était l'inculpation des scribes. Ils avaient une attitude perverse envers Jésus, une preuve irréfutable qu'ils ne l'aimaient pas, parce que s'ils l'avaient aimé, ils auraient une meilleure opinion de lui. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous pensez le meilleur, et même lorsque quelque chose ne va pas, vous pensez le meilleur. Je répète encore et encore à ma femme, « Chérie, je sais que nos enfants vont être formidables. Je sais qu'ils vont réussir. Je pense qu'ils seront les meilleurs enfants quand ils deviendront adultes. Vous savez pourquoi je pense cela ? Je dois penser cela. Je crois cela. Je crois cela parce que je le souhaite. Je le souhaite parce que je les aime. C'est comme cela que l'amour fonctionne. Mais vous voyez, dans le cas d'une haine de ce genre, même quand il ne pouvait pas trouver une faute en lui, il continue à chercher des fautes parce qu'il le détestait. Vous commencez à détester quelqu'un et vous faites tout votre possible pour trouver des fautes. Vous commencez à aimer quelqu'un et vous couvrez ses fautes. C'est la différence. L'amour est un havre de confiance pour ceux que tout le monde met en doute. Alors l'amour croit. Dès que quelqu'un voudra bien refaire les choses comme il faut, l'amour est, Galates 6, 1, l'amour est là pour restaurer le frère tombé au combat. Pour vous donner une illustration de l'amour, il suffit de penser à Jésus et aux disciples. Ils n'étaient pas trop brillants. Franchement, ceux qui sont les plus connus dans le Nouveau Testament, Pierre, Jacques et Jean, étaient pécheurs. Pierre était un personnage notoirement infidèle, qui faisait continuellement des gaffes. Jacques et Jean avaient un problème de fierté et une sorte de pseudo-spiritualité. Ils envoyaient leur mère pour demander s'ils pouvaient avoir les sièges principaux dans le royaume. Maintenant, pour les autres disciples, nous ne savons pas grand-chose. Ils étaient aussi des pécheurs. Jésus aurait pu se gratter la tête et dire « Père, je ne sais pas quoi te dire, mais cette affaire ne va pas marcher. J'ai 12 perdants. Si tu penses que je devrais revenir au ciel et leur confier toute cette opération, je le ferai, mais c'est un peu effrayant. Mais vous savez, Jésus connaissait les péchés des disciples comme nul autre, et pourtant, il croyait le meilleur de chacun d'eux, n'est-ce pas ? Il a dit, ils peuvent le faire. Il leur a confié la tâche et les a envoyés dans le monde pour le faire, et ils l'ont fait. Vous savez ce que je pense ? J'ai tendance à penser que vous tirez le meilleur parti des personnes auxquelles vous croyez le plus. Il a cru le meilleur de chacun d'entre eux, et il leur a confié tout son plan, et ils l'ont mis en œuvre. Vous dites, « Mais John, que se passera-t-il si vous couvrez leur péché ?» Et vous dites ensuite, « Je vais croire qu'il y a du bien en lui, que l'amour est rédempteur, que cela va s'arranger, et qu'il va revenir. Je le crois. Et il ne le fait pas. » Vous constatez que votre foi commence à s'estomper, et vous dites, « Je pensais qu'il viendrait. » Vous dites à propos de ce fils ou de cette fille rebelle, « Je pensais qu'il reviendrait, mais cela fait 15 ans. » Ou à propos de ce mari, « Je pensais qu'il le ferait. » Mais je ne sais plus. Je ne sais plus si je le crois encore. Alors que fait l'amour ? La troisième déclaration citée au verset 7. L'amour quoi ? Espère tout. L'amour est la longue ligne, la longue corde qui ne se déconnecte jamais. C'est long. Vous dites, tant que la grâce de Dieu est active, l'échec humain n'est jamais définitif. La chose à laquelle je reviens toujours, c'est la promesse. Quelque chose est-il trop difficile pour Dieu ? Je pense à une situation que nous avons vécue il y a quelques années. Certaines personnes que nous avions disciplinées dans l'Église vivaient d'une façon très pécheresse, et elles sont parties. En raison de mon amour, il y avait un grand désir dans l'amour de jeter un voile sur leurs péchés, et de ne jamais en parler, d'en discuter, sauf avec ceux qui priaient pour ces personnes. Puis, il y avait un grand désir dans mon cœur de croire que quelque chose allait changer, qu'elles reviendraient. Je croyais cela. Je suppose que dans certains cas, maintenant, ma foi est devenue un peu petite, mais vous savez ce que je fais maintenant. J'espère leur retour. Je l'espère. C'est comme s'ils étaient sur une longue corde, et que de temps en temps cette corde me tire au cœur, et je prie pour eux. J'espère. Je continue d'espérer. Vous voyez, l'amour est désespérément, si nous pouvons faire un jeu de mots, optimiste. Il ne cesse jamais d'espérer. Vous dites, Dieu est toujours Dieu, et il peut le faire, et je dois espérer. L'amour refuse de prendre l'échec comme finalité. Dieu ne l'accepte pas d'Israël. Jésus ne l'accepte pas de Pierre. Et Paul ne l'accepte pas des Corinthiens. Je ne tolère pas l'échec final. Beaucoup de femmes aimantes sont restées fidèles à leur mari, avec rien d'autre que cette corde d'espoir. Beaucoup de parents gardent espoir pour leurs enfants. Beaucoup d'amis gardent espoir pour leurs amis. Lorsque toute votre foi est obscure, vous devez garder l'espoir. Mais vous savez, c'est incroyable. Parfois, nous jugeons mal à ce moment-là, et nous pensons que nous avons raison. Ne jamais abandonner l'espoir. L'amour ne le fait pas. Vous pourriez dire, « J'ai perdu toute confiance en eux. Ils ont tout abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Je relâche tout. L'amour ne le fait pas. » C'est comme aller dans un village situé sous le Cervin en Suisse, et vous entendez des personnes dire, « C'est magnifique. Il faut absolument voir le Cervin par une journée ensoleillée. » Vous arrivez et il y a du brouillard. Vous êtes assis sur le sol et vous dites, « Menteur, il n'y a pas de Cervin. Je suis ici, je ne vois pas de Cervin. » Vous pensez que dans les moments les plus difficiles, vous avez porté le jugement le plus clair. Mais l'amour ne fait pas cela. Quand toute la foi est encrassée et embuée, l'amour reste suspendu à l'espoir. Quand le doute et le désespoir volent la foi, l'amour a encore de l'espoir. Il y a un chien dans un aéroport d'une grande ville. Il est là depuis plus de 5 ans. Quelqu'un m'en parlait cette semaine. Son maître et lui voyageaient quelque part, et son maître monta dans l'avion sans lui. Il est là depuis 5 ans. Il attend dans le même coin. Les personnes à l'aéroport lui donnent de l'eau et de la nourriture tous les jours, et il espère. Si l'amour d'un chien pour un maître, quel que soit le type d'amour, si l'attachement d'un chien à un maître puisse permettre ce genre d'espoir fidèle, l'amour pourrait certainement le produire en nous, si nous l'aimons vraiment. L'amour, voyez-vous, ne fuit pas, ne renfloue pas, ne part pas dès que la première erreur est commise, le premier péché est commis. L'amour attend. Il y a assez de promesses dans la Bible pour que l'espoir fonctionne. Vous dites, « Mais John, si vous excusez tout, vous croyez tout, vous espérez tout, et la corde avance de plus en plus loin, et que vous perdez tout espoir, puis quoi ?» Ok, le dernier est le verset 7. L'amour supporte toute chose. Quand il a excusé, il a cru et espéré, et il est toujours déçu. Il tient quand même, car le verset suivant le dit. L'amour endure tout. Cela le résume. Il ne meurt jamais. Vous ne pouvez pas le tuer. Maintenant, le terme ici est « l'amour perdure » au verset 7, le 15e de la liste, et c'est un terme militaire. Il s'agit de se positionner au milieu d'une bataille dans une situation très violente. Ce n'est pas que l'amour ne peut gérer de petits ennuis mineurs. Non, non, cela signifie que l'amour est face à une opposition incroyable et qu'il aime toujours. C'est Étienne étendu sur le sol, sa vie écrasée par des pierres et disant « Père, ne leur impute pas ce péché ». Il voulait jeter un voile sur les péchés de son peuple. Il croyait, il espérait. Alors il prêchait avec la conviction que certains écouteraient, et il espérait qu'il viendrait à Christ. Quand il était à court de foi et d'espoir, il ne lui restait plus que l'endurance, et ils l'ont écrasé. Comme ils étaient en train d'écraser sa vie, il endurait tout simplement, n'est-ce pas? Parce qu'il les aimait, et qu'il disait « Ne les blâme pas pour cela, Père. C'est Jésus sur une croix, jetant une couverture sur leurs péchés, croyant, sachant qu'il y avait des croyants parmi eux, endurant à la fin les crachats, mais prononçant les mots d'amour, « Père, quoi ? Pardonne-leur. Vous voyez, l'amour ne meurt jamais. Vous ne pouvez pas le tuer. L'amour n'échoue jamais. Même lorsque l'amour de cet enfant rebelle disparaît et que vous recevez la haine, l'amertume et le rejet, année après année, vous ne cessez jamais d'aimer. Vous endurez. C'est le crescendo de l'amour. L'amour porte tous les maux et blessures. C'est ce que Paul a dit dans ce verset. Les péchés, les déceptions, cela les recouvre d'une couverture de silence. Puis, on se sent bien. On se sent rédempteur. Et on supporte même la douleur, si c'est possible. Après cela, il continue à croître. L'amour continue à croire le meilleur de quelqu'un, le meilleur de lui. Il n'est jamais cynique et il n'est jamais méfiant, malgré les blessures. Quand l'amour qui croit est trahi, alors l'amour se tourne vers l'espoir, parce que Dieu est toujours Dieu. Il règne toujours et il peut tout faire. Même lorsque l'espoir s'épuise et que tout espoir semble perdu, l'amour perdure. Il endure la douleur profonde qui semble définitive, avec une confiance triomphale que le Dieu qui donne la paix à ses enfants est toujours sur le trône. Vous voyez, l'amour n'est jamais accablé. Il se soucie trop pour abandonner. Il mourra dévoué. Il mourra même si on lui crache dessus en disant « Pardonne-leur, c'est l'amour ». Mais, tragiquement, dans l'Église corinthienne, il n'y avait pas d'amour. C'était comme l'Église dont parlait Reinhold de Niebuhr quand il disait que l'Église était comme l'arche de Noé. Si ce n'était pas pour la tempête à l'extérieur, nous ne pourrions pas supporter la puanteur à l'intérieur. C'est comme les Corinthiens, mais ce n'est pas comme Dieu l'a voulu. Il veut que nous soyons caractérisés par l'amour. Il veut que l'Église soit une communauté d'amour. Il veut voir ces choses en action. Vous dites, John, je sais maintenant que l'amour est important. C'est important parce que cela apporte la plénitude spirituelle et la plénitude physique. C'est important parce que c'est un attribut de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous devons le manifester. Je vois ce que c'est maintenant. Je vois ce qu'il fait et comment il se comporte. Mais comment puis-je le manifester dans ma vie? Je veux dire, comment puis-je commencer à vivre l'amour dans ma propre vie? Laissez-moi vous donner 5 choses et je vais terminer. Je vais simplement les énumérer. Ce sont les 5 clés pour aimer. Maintenant, si vous mettez ces choses en pratique, vous expérimenterez cet amour. Premièrement, reconnaissez que c'est un commandement. Reconnaissez que l'amour est ordonné, que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir de manifester ou non, que ce n'est pas une option. Reconnaissez qu'il est ordonné par Dieu d'aimer. Donc, nous n'avons pas quelque chose de capricieux ici. Nous avons quelque chose d'absolu. Romains 13, 8, 10. C'est un absolu. Vous êtes ordonné d'aimer. Deuxièmement, reconnaissez que vous avez déjà le pouvoir de le faire. Romains 5, verset 5. L'amour de Christ est répandu dans votre cœur. Ce n'est pas seulement un ordre, mais un ordre possible, parce que vous en avez le pouvoir. Troisièmement, reconnaissez que c'est la norme. Reconnaissez qu'il s'agit d'une activité normale, fondamentale, humaine et chrétienne. Les premiers versets 7 à 10 du chapitre 4 de 1 Jean nous disent que Dieu est amour, et que nous devrions l'être aussi. C'est la norme. Alors, vous reconnaissez que c'est ordonné, c'est possible et c'est normal. Quatrièmement, reconnaissez que c'est le travail de l'Esprit. C'est pour que vous n'essayiez pas de le concevoir sous forme de conserve. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit est l'amour. Alors reconnaissez que c'est le travail de l'Esprit. Maintenant, quand vous vous êtes vraiment mis au travail et que vous avez reconnu que c'était un ordre, vous vous êtes engagé. Très bien, Seigneur, c'est un ordre. Je m'engage à aimer. Mettez-vous à genoux et dites tout d'abord, « Dieu, je m'y engage. » Ensuite, « Dieu, je reconnais que je suis capable d'aimer. » « Dieu, je reconnais que c'est tout à fait normal d'aimer. » Et « Dieu, je reconnais que je suis capable d'aimer de manière normale pour accomplir le commandement, mais seulement par la force de l'Esprit. » Puis le cinquième, la pratique, c'est tout. Entraînez-vous. Saviez-vous que même Jésus a appris l'obéissance, dit la Bible. Entraînez-vous. Commencez par votre maison. Mettez en action les 15 caractéristiques, et le monde vous regardera et dira ce que Dieu veut qu'il dise. Oh, comme ils s'aiment les uns les autres. Cela exaltera le Christ. Prions. Père, merci encore ce matin parce que tu nous aimes. Nous prions pour que tu nous aides à aimer de la même manière que tu nous as aimés. S'il y a des personnes ici qui n'ont pas connu ton amour parce qu'ils ne connaissent pas le Fils, que ce soit le jour où ils le connaîtront. S'il y a des chrétiens ici qui n'aiment pas ceux qu'ils doivent aimer, qu'ils s'engagent à aimer parce qu'ils le peuvent, parce que c'est normal par la force de l'Esprit, qu'ils commencent aujourd'hui à pratiquer et que nous continuions à le faire quotidiennement, afin que nous puissions connaître la plénitude de la bénédiction, que nous puissions connaître la victoire sur le péché. Car aimer, c'est exclure le péché, et vivre ainsi te donnera la gloire. Nous te remercions pour le temps que nous avons passé ensemble, aujourd'hui, au nom du Christ, que nous aimons, qui nous aime, et à cause de qui nous aimons. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.